De Jacques au chapitre 1, verset 2. Frères, considérez comme un sujet de joie totale les diverses épreuves par lesquelles vous passez. On peut déjà s'arrêter là. Frères, considérez comme un sujet de joie totale les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors ça, c'est vraiment étonnant que Jacques, probablement c'est le frère du Seigneur qui écrit là, que nous devons considérer comme un sujet de joie totale les épreuves. On va l'expliquer. Vous voyez, il commence fort. C'est même la première parole de l'Épître. Considérer comme un sujet de joie totale les diverses épreuves. Et le mot divers est vraiment dans le texte en grec, c'est toutes sortes d'épreuves. Et elles ne se ressemblent pas toutes, hein. Il y en a de toutes les sortes, on en voit de toutes les couleurs, c'est exactement ce mot-là qui est utilisé. Dans la vie chrétienne, on en voit vraiment de toutes les couleurs. Il y a les épreuves internes à l'Église, et Paul il s'est heurté à des problèmes dans les Églises inouïs. Et vous voyez ça en lisant les épîtres écrites par les apôtres. Des fausses doctrines, des dissensions, des adultères, que sais-je encore, de la débauche. Il y avait de tout dans les églises, de tout, dès le début. Et, ou bien des mésententes avec des collaborateurs, alors il fallait se séparer. Bon, il y a de quoi être complètement déprimé. Hein. Mais Paul, il a passé par toutes ces épreuves. Et puis il y a les épreuves de l'extérieur, de l'église, les persécutions. Les moqueries, voilà, toutes sortes d'épreuves, et puis les épreuves liées à la vie ordinaire, hein, la faim, la maladie, etc. Voilà toutes les épreuves que, par lesquelles les apôtres passent, les chrétiens, ça leur est pas évité, et on peut même dire que peut-être il y en a encore un peu, une dose de supplémentaire pour les chrétiens. Et l'apôtre Jacques nous dit: prenez cela comme un sujet de joie totale. Les diverses épreuves variées auxquelles vous pouvez être exposé. Alors, le motif de la joie est en premier. Remarquez bien, le motif de la joie est en premier. La joie est mentionnée en premier. Et quand on étudie l'hébreu, on découvre qu'il y a au moins dans la Bible, en hébreu, 5 mots différents pour exprimer la joie, pour parler de la joie. 5 mots différents. C'est vous, quand une langue est riche en mots pour désigner une réalité, c'est que cette réalité est très importante. La joie est quelque chose de très très important dans la Bible. Il y a même une fête que Dieu a donnée à son peuple, et que nous ne fêtons pas, bizarrement. C'est la fête de Soukhot, la fête des cabanes, où il faut être joyeux. Il faut se réjouir devant Dieu. Vous voyez, une fois au moins dans l'année, pendant 8 jours, hein, on se réjouit pendant 8 jours de suite. Il savait faire la fête avec Dieu. Il savait être joyeux en présence de Dieu. Et là, on nous dit que nous devons considérer les épreuves comme un sujet de joie parfaite. Le motif de la joie est présent dans le dernier enseignement de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 14, 15, 16 et 17. Même dans le chapitre 17, où c'est la prière de Jésus, il dit, je dis ces choses, il dit dans la prière à son Père, je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, parfaite. Ma joie parfaite. Et c'est aussi dans le verset, une parole de Jésus qui n'est pas dans les évangiles, mais qui est dans les actes des apôtres, je crois, on nous dit, le Seigneur a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est une parole qui n'est pas dans l'évangile, mais qui est du Seigneur, et qu'on a dans les actes des apôtres. Si quelqu'un a la mémoire du verset qui me le dise, je ne suis pas tout à fait sûr, mais ce n'est pas dans les évangiles, Et c'est une parole authentique de Jésus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc la joie est quelque chose dont, nous, dont la Bible nous parle souvent. Et là, Jacques, j'allais dire, il a le culot de nous dire, prenez les diverses épreuves par lesquelles vous passez comme un sujet de joie totale. Et il va quand même nous expliquer cela. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, produit de l'endurance. Ah, là on comprend que l'épreuve, elle est un test de la foi. Comme si ce dépôt de la foi ne pouvait se manifester toute sa richesse que par l'épreuve. Comme si ce dépôt de la foi ne pouvait être activé et produire du fruit, produire en tout cas le fruit de la persévérance ou de l'endurance, c'est traduit chez moi endurance ou persévérance. La foi doit produire l'endurance, doit produire une résistance dure, solide, ferme, indestructible au mal. Et cette endurance, cette persévérance, elles ne peuvent venir, la foi ne peut les produire que par l'épreuve. J'étais à une pastorale avec ma femme au début de la semaine à Mulhouse, une pastorale évangélique, et le pasteur nous a prêché là-dessus. Il nous a dit, la foi, elle est mise à l'épreuve. On ne peut pas l'éviter. On aimerait prêcher autre chose et on trompe les croyants si on ne leur dit pas ça. Parce que Jésus lui-même a été éprouvé. Il a appris lui-même à développer la patience. Donc tout ce qui est arrivé à Jésus, ça nous arrive à nous. Entre le moment de son baptême et le moment où il va guérir tellement de malades, libérer tellement de gens qui avaient des problèmes avec des démons, des gens qui n'en pouvaient plus, des gens qui n'avaient même plus la force de crier vers Dieu. Il est allé les sauver. Mais entre le moment de son baptême et le moment où il a un ministère puissant de guérison, de délivrance, de joie, il y a eu les 40 jours au désert où il était en permanence tenté. Il a été tenté. Le Seigneur a été tenté. Il a été éprouvé. C'est toujours le même mot qui est traduit par tenté ou bien éprouvé. Hein, tentation, épreuve, c'est le même mot en grec, peirasmos. C'est le même mot en grec. Jésus a été tenté, éprouvé. Et c'est parce qu'il a passé le test le test de la foi par 40 jours d'épreuve, de tentation, qu'il a eu un ministère puissant, gratuit pour tout le monde. Il n'a pas fait payer aux autres cette épreuve. Cette épreuve a simplement développé en lui la capacité de répandre le Saint-Esprit qu'il avait reçu. Au baptême, c'était magnifique. Hein. C'est des moments un moment où il y a eu la louange, le ciel était ouvert, le Saint-Esprit descendu sous forme de colombe sur lui. Il a entendu aussi la voix du Père directement du ciel. Vous avez déjà entendu la voix du Père? C'est arrivé à quelques-uns, moi je ne l'ai jamais entendu, mais il y a un pasteur, enfin il n'était pas pasteur, il était chef d'entreprise, il ne cherchait absolument pas Dieu, et un jour il a entendu la voix du Père. Il était dans une pièce, il n'y avait personne d'autre. Il a bien cherché, il n'y avait personne. Il a entendu la voix audible. Lui, c'était avec des oreilles. Et c'était la parole suivante. Regarde comme je suis bon et comme tu es mauvais. Lui, il n'avait aucun problème. Hein. Il avait une vie de famille, tout. Il avait un bon salaire, il avait pas de soucis. Mais le Seigneur l'a cherché. C'est pas nous qui cherchons le Seigneur, c'est lui qui nous cherche. Mais il a réfléchi, est-ce qu'il y avait... Comment ça se fait que le Seigneur m'a parlé? Moi, je ne cherchais pas le Seigneur. Là, il s'est souvenu d'une tante qui était décédée, mais qui était longtemps malade, et qui chaque fois lui disait très peu de choses, mais ou lui disait en tout cas, je prie pour toi. Donc il y a eu pour Jésus ce moment de grâce au baptême, et après il y a eu l'épreuve. Et après il y a eu de nouveau la grâce qu'il a pu répandre autour de lui pendant 2 ans et demi. Après une grâce, après de nouveau l'épreuve. L'épreuve dans le jardin d'Éden, le jardin de Gethsémané, qui rappelle justement l'épreuve que Adam et Ève ont ratée dans le jardin d'Éden. Lui, Jésus, l'a réussi. Vous voyez, là où l'être humain a raté l'épreuve, Jésus va la réussir. Parce que les 40 jours dans le désert, ça rappelle les 40 ans des Hébreux dans le désert où ils ont raté leur épreuve. Ils ont raté, là. Ils ont toujours tombé, ils sont toujours tombés dans la tentation. Quand ils auraient pu faire la preuve, l'épreuve, passer le test de leur foi, ils ont raté le passage du test. Mais Jésus, lui, il le réussit. Et au jardin de Gethsémané, il a encore passé par l'épreuve. La pire, une angoisse telle qu'il n'en pouvait plus. Un ange est venu le fortifier. Mais la réalité des anges est enseignée partout dans la Bible. Ils viennent fortifier, mais on reste libre de continuer dans l'épreuve. L'épreuve est quand même là. On a un petit encouragement, mais l'épreuve doit être passée. Et Jésus, l'Épître aux Hébreux nous dit, il a passé l'épreuve en vue de la joie. En début de la joie qui lui était réservée. Donc, je voudrais utiliser une comparaison. Pourquoi Dieu permet l'épreuve? L'épître de Jacques nous dit, c'est pour que votre foi soit testée, qu'elle produise ce qu'elle doit produire. Une persévérance, une endurance. Et après, il y a d'autres résultats encore. Je ne lis pas tout. L'endurance parfaitement opérante fait que vous soyez parfait, accompli, exempt de tout défaut. Enfin, il y a plein de fruits à cette persévérance. Mais c'est le test de la foi, c'est l'épreuve qui produit cela. Pourquoi? Parce que la foi est un grand miracle que Dieu a déposé en nous, que Dieu a opéré en nous. Moi, je dirais que la foi, c'est Dieu opérant en nous. C'est pas nous qui avons donné, nous ne sommes pas donné la foi. Nous nous avons pas fait une œuvre. Ah voilà, je vais vraiment me croire à la parole de Dieu parce qu'il y en a tellement qui parlent de la Bible. Je vais essayer d'y croire, je vais faire toutes mes forces. Moi j'ai fait ça, ça marche pas. Ça marche quelques années et après terminé. Le jour où vous dites bon, moi on m'a imposé la Bible, mais il y a d'autres religions avec d'autres livres, avec d'autres écrits bien plus intéressants peut-être. Moi je vais croire à ma façon. Mais le Seigneur m'a cherché. Et il m'a donné la foi. Et la foi, c'est ce que Jésus opère en nous parce que Jésus est là. Jésus n'est pas seulement dans le ciel, il est là aussi. Nous avons chaque fois que l'épreuve est maniée, qu'on parle de l'épreuve dans la Bible, on parle du Seigneur qui est proche, 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 proche. Dans le psaume 23, que vous connaissez, j'espère, il y a beaucoup de paroles merveilleuses de bonheur, mais il y a une parole où nous dit quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais il y passe, elle y passe, la brebis, dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Pourquoi elle ne craint aucun mal? Parce qu'elle fait abstraction de tout, hein, elle se bétonne, non? Elle n'a pas de protection en elle-même, la brebis. C'est le seul animal qui est complètement ignorant, sans défense. Il n'a aucune protection en lui-même. Eh bien, elle ne crie même pas. Parce qu'il y a des animaux qui crient et ça fait peur aux autres. Mais le brebis ne crie pas. Eh bien, le psaume 23 nous dit, je ne crains aucun mal car tu es auprès de moi. Toi, tu es auprès de moi. Donc Jésus est proche, pas seulement dans le ciel, il est proche de ceux qui sont dans l'épreuve. Découvrez cette proximité de Jésus dans l'épreuve. Vous avez le droit de la découvrir et c'est même pour cela que vous passez par l'épreuve, pour découvrir encore plus la foi que Dieu a mise en vous. C'est comme ceux qui ont un ordinateur, vous comprendrez ce que je veux dire, mais les autres aussi, parce que je vais vous expliquer. Quand ça fait 10 ans qu'on m'a donné un ordinateur. Moi, j'utilise l'ordinateur essentiellement comme une machine à écrire. Voilà. J'ai besoin surtout d'écrire des textes. Voilà. Donc j'utilise essentiellement l'ordinateur comme une machine à écrire. Mais ça, ça représente, dans ce que l'ordinateur sait faire, ça représente peut-être 2% de ce que l'ordinateur peut faire pour moi. L'ordinateur peut faire bien plus de choses si je savais tout ce qu'il y a dedans. Si je savais, connaissais toutes les potentialités de mon ordinateur, ben, je découvre petit à petit quand même. Bon, ça peut me faire mes calculs, ça peut me faire des graphiques, des tableaux, ça peut m'aider à stocker des photos, à corriger même les photos, à les améliorer, enfin, à faire des dessins. On peut tout faire, on peut faire tellement de choses avec l'ordinateur. Et on ne sait pas, on ne sait pas au début utiliser toutes ces potentialités que nous avons déjà. Eh bien, la foi, c'est pareil, c'est une potentialité qui est sans limite. Ne croyez pas que votre foi peut être limitée par quelque chose. Jésus a bien dit plusieurs fois que la foi est sans limite, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Et l'évangile de Jean que j'étudie depuis des années, il me semble que le chapitre 11 constitue vraiment le noyau, là où nous sommes enseignés, où tout est contenu déjà. Et parce que dans la Bible, souvent la conclusion n'est pas au début du livre, mais au milieu. C'est là. C'est un style de rédaction qu'on appelle le chiasme. On met l'essentiel au milieu. On développe à partir du milieu. Et le milieu, c'est Jean 11. C'est... Alors, tout le monde dit, c'est quoi alors, Jean 11 ?
Lazare.
Eh bien, figurez-vous, en étudiant, j'ai vu qu'il y a aussi Marthe. Ah oui, il y a Marthe et on pourrait presque dire que c'est un enseignement sur la foi entre Jésus et Marthe. Et que Lazare, lui, il paraît très secondaire là-dedans, puisqu'on n'entend pas parler, même après sa résurrection, on aurait pu lui faire une petite interview, dire raconte-nous comment c'était là-bas. Non, rien du tout. C'est Marthe avec laquelle il y a le dialogue entre Jésus et elle. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection. Ça c'est Jean 11, 25 à 27. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi, vous voyez comme c'est écrit, tous les mots sont importants, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, j'ai cru que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Venant dans le monde. Vous voyez, Jésus est à la droite du Père, mais rien n'empêche de venir. Et quand nous prenons la scène, nous croyons qu'il vient. Il est dans le ciel, mais il vient. Parce que ce que nous faisons là, c'est connu, c'est le cœur de l'adoration qu'il y a dans le ciel, puisque dans le ciel, ils adorent l'agneau. Ils adorent l'agneau immolé. L'agneau immolé qui se dresse, qui est ressuscité. Donc il y a ce dialogue avec Marthe. Et la réponse de Marthe, qui contient l'essentiel de la foi, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et ça c'est le plus grand miracle qu'un être humain puisse dire ça. Parce que pourquoi croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu ? Il y a tellement de prophéties qui doivent encore s'accomplir et s'accompliront par sa venue en gloire, le rassemblement de tous les exilés d'Israël, des 12 tribus, etc. Mais Jésus, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu. Il n'avait aucune apparence, il n'avait aucune réputation qui justifie qu'on croit en lui, puisqu'il est mort de la manière la plus terrible aux yeux de ceux qui connaissent la Bible, il est mort. La façon dont il est mort prouve qu'il est maudit de Dieu, qu'il est séparé de Dieu. Car mourir comme ça, pendu, c'est, d'après le Deutéronome, c'est la malédiction de Dieu sur ceux qui n'observent pas sa loi. Donc Jésus, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, et par sa mort, il nous a transmis. Il nous a transmis une joie qui ne peut pas être enlevée. Parce que la joie de la résurrection, elle ne peut pas être enlevée. Puisque la résurrection, c'est pas comme la résurrection de Lazare. Hein? D'ailleurs, les autorités juives voulaient tuer Lazare après. Ils voulaient tuer un homme ressuscité. Bon. Ils auraient pu le faire, d'ailleurs. Mais pas, on ne peut pas tuer Jésus ressuscité, ça ne peut plus. Jésus est vivant de la vie de Dieu. Il nous fait vivre de cette vie. On peut aujourd'hui vivre et croire en Jésus. C'est pourquoi j'ai insisté sur comment Jésus nous dit ici, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Vous voyez, c'est des paroles qui dépassent l'entendement. Mais c'est ça le cœur de la foi que Dieu a déposé en toi. Et les épreuves servent à manifester toute la richesse de cette foi qui est déjà en toi. Recevoir la foi, c'est recevoir Jésus comme tout entier, pas seulement une partie de Jésus. C'est recevoir le Christ Jésus qui est devenu chair, qui est baptisé, qui est tenté, le Christ qui guérit et libère, qui va vers les autres, qui cherche les autres pour les guérir, pour les sauver, le Christ crucifié, le Christ ressuscité, le Christ élevé sur le trône de Dieu. Tout ça, c'est dans la foi. Tout ça, ça t'est donné. Et tout ça, ça doit être développé. Et ça va être développé par les épreuves. Mais Dieu nous est toujours avec nous dans ces épreuves pour que elles portent pour nous et pour les autres un fruit merveilleux. L'endurance, la persévérance, comme Jésus l'a appris lui-même. Aucune tentation ne vous est survenu, dit l'apôtre Paul, qui n'ait été humaine. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et c'est-à-dire, le mot grec, c'est une porte de secours. Voilà, on a une porte principale qui est aujourd'hui fermée. Il y a une porte de secours, là. Eh bien, une porte est fermée pour toi. C'est bloqué, tu ne peux plus passer. Mais Dieu t'ouvre une autre porte. Attends-le. Attends de voir la porte qui va t'ouvrir. Aucune tentation n'est inhumaine. Dieu prépare déjà le moyen d'en sortir. On peut aussi dire qu'il prépare la couronne de vie. Il a déjà dans la main la couronne au moment où on est dans l'épreuve. Jésus a dit à ses disciples... Luc 22, 28, « Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. »